franceinter.fr.
Bonjour à tous. À une semaine du premier tour des élections législatives qui devraient signer le processus de recomposition de la vie politique française entamée avec la présidentielle, rendez-vous avec Vanessa Descoureaux dans un département, l'Isère, qui illustre cette fragmentation inédite sous la Ve République. Le paysage social isérois est une mosaïque avec des zones de prospérité, Grenoble, ses start-up et son pôle technologique, c'est la 5e ville la plus innovante du monde au classement Forbes d'il y a 4 ans, des zones rurales et montagnardes où la pérennité des services publics inquiète les électeurs, ou bien encore un ouest du département périurbanisé qui regarde plus vers Lyon que vers Grenoble, avec des problèmes typiques de toutes les banlieues de l'Hexagone. Politiquement, l'Isère est un département actuellement présidé par un élu, Les Républicains, mais 7 des 10 circonscriptions y ont un député socialiste. Et au soir du premier tour de la présidentielle, Marine Le Pen était en tête dans quelque 300 des 522 communes du département. Dans ce paysage politique déjà bien contrasté, l'irruption de candidats En Marche, parfois opposés à d'anciens partenaires socialistes, et les progressions attendues de ceux de la France Insoumise, brouillent encore plus le jeu. Le 18 juin, le shaker électoral livrera forcément un cocktail totalement nouveau et probablement étonnant.
Interception, le magazine de la rédaction.
Merci. Merci. Au revoir également. Allez, après, j'ai les femmes et les enfants d'abord.
Regardez comme elle est belle, hein.
Le 25.
Un peu de noir, un peu de vert.
Non, juste la verte, s'il vous plaît.
Allez, regardez. C'est bon.
Merci. C'est un enregistreur.
Pour
la radio.
Laquelle?
France Inter.
France Inter.
Ça marche bien sur le marché, les gens sont réceptifs?
Les gens, depuis les départementales, les régionales, les présidentielles, je trouve qu'ils s'intéressent beaucoup à ce qui se passe, qu'ils commencent à avoir un regard critique quant aux affaires et à tout ce qu'on voit sur tous les réseaux. Et je pense que l'opinion est en train de se faire et j'espère que ça va aller dans le bon sens.
Vous avez des concurrents qui passent.
Oui, il y a beaucoup de concurrents, mais c'est pas grave. Moi, j'aime bien. Par contre, j'adore tracter sur les marchés. C'est là qu'on peut toucher les gens et qu'on peut leur parler. Moi, mon slogan pendant les départementales et régionales, c'était « Il y a des gros budgets, vous ne vous rendez pas compte que les gens, c'est votre argent, il y a des budgets, donc engagez-vous, votez, regardez, lisez. » Mais après, c'est vrai qu'il y a tellement de candidats que ça va être très compliqué.
On est dans une situation politique inédite. Est-ce que la situation pour ces législatives est encore lisible pour les électeurs moins engagés que vous?
Je pense que pas trop. Mais j'espère que du coup ça va donner un coup de fouet, que les gens vont essayer de comprendre et pas continuer à dire c'est tous des pourris, etc. Bon, on va dire que Macron, il a réussi. J'espère que tout le monde ne va pas suivre comme une seule personne devant ce petit couple sympathique vu de loin. Mais j'avoue qu'il faut faire déjà l'instruction civique dans les écoles, c'est la base. Parce que pour les régionales et les départementales, je vous jure que les trois quarts des gens... c'est à des milliers de kilomètres, l'Europe c'est encore pire, donc il faut vraiment essayer que les gens comprennent qu'ils sont acteurs de cette vie publique.
Sur les 10 circonscriptions ici dans le département de l'Isère, vous imaginez quoi au soir du deuxième tour de ces législatives?
Alors moi depuis Trump, j'imagine rien, je ne fais pas de calcul politique, je ne fais pas de pourcentage, je laisse ça aux mathématiciens de la politique et je continue à défendre mes valeurs, surtout à Grenoble. On sait que c'est une terre de résistance, donc on résiste.
Les élections le 18, renseignez-vous. Faites votre marché. Pour un avenir radieux, n'oubliez pas, ça peut arriver. Merci, voilà, bonne journée.
Non, mais ça m'intéresse pour voir le Méli-Mélo. Hein.
Tenez, c'est pas les mêmes.
Je pensais qu'à l'école, il était pour Mélenchon.
Non, il avait juste le premier tour, mais ça, vous irez lui demander des explications.
Oui, parce que ça fait bouillibouilla, hein. Ça fait cacaillabouilla, si.
Non. Ramon, les Verts ont toujours été là-dessus. Après, il y a des errances.
Et voilà 10.
Faites savoir le rassemblement pour une France radieuse, une France qui économise.
Nous sommes devant l'entrée d'un endroit qui s'appelle le Totem, ici dans le centre de Grenoble. C'est un lieu qui est dédié aux start-up, à toutes ces entreprises tournées vers le numérique. C'est un lieu d'accueil, de promotion de cette économie innovante qui a pris au fil des années une part de plus en plus importante ici dans l'économie locale à Grenoble, si bien qu'en 2013, l'influent magazine Forbes a classé la ville de Grenoble 5e ville la plus innovante au monde, ce qui lui vaut donc cette image de ville moderne, de ville connectée, dynamique. Bonjour.
Enchantée. Enchantée.
Alors,
où est-ce qu'on va se mettre ?
Ah, c'est vous qui connaissez les lieux, donc je vous suis.
Je suis Marie Poule et je suis la cofondatrice de la start-up Lovebox qui fait des objets connectés qui créent du bonheur.
Alors il va falloir nous expliquer ce que c'est que la Lovebox, même si on a une petite idée quand même, puisqu'elle a l'air bien nommée.
C'est une boîte à amour connecté. C'est un objet qu'on offre à une personne qu'on aime pour lui envoyer des messages d'amour dessus. Et ça ne sert qu'à ça, recevoir de l'amour. C'est une boîte en bois de hêtre, qui est donc branchée sur une prise et qui est reliée au Wi-Fi. Et qui est relié avec une application mobile. Donc on envoie ces messages depuis l'application. Quand le message arrive sur la Lovebox, le cœur qui est à l'avant de l'objet se met à tourner. Et il va tourner jusqu'à ce que le destinataire du message ouvre le couvercle de la Lovebox et découvre à l'intérieur, caché sous un miroir sans teint, le petit mot qui lui a été envoyé. Ici, il est écrit « You are amazing, hashtag love ».
Qu'est-ce qui fait que... Au final, Grenoble, alors peut-être que c'est une image un peu fabriquée, mais qu'est-ce qui fait que Grenoble a cette étiquette de ville connectée, de ville ouverte, peut-être plus que des villes qui ont la même population que Grenoble, au final 160 000 habitants, il faut le préciser.
Les grandes entreprises jouent un rôle important là-dessus, parce qu'on a quand même beaucoup de grosses entreprises technologiques. On a le CEA aussi qui fait émerger des start-up. Notamment, il y a une très belle start-up grenobloise, ISKN, qui fait... La Slate, qui fait un objet...
Alors, nos auditeurs les plus attachés à la langue française vont vous en vouloir.
J'ai toujours du mal à l'expliquer, mais en gros, c'est assez génial. C'est un objet qui permet de numériser en temps réel ce que vous êtes en train de dessiner ou d'écrire sur un papier. Donc, c'est garder le plaisir du papier tout en mettant du numérique. Mais typiquement, ça, c'est une start-up qui émerge du CEA. Donc, il y a une technologie derrière hyper compliquée. Mais voilà, il y a vraiment un écosystème qui nous pousse à entreprendre ici. La BPI, qui est la Banque publique d'investissement française qui soutient l'entrepreneuriat, est très dynamique à Grenoble. Donc, quand je parle avec des Parisiens, ils me disent « Ah, mais t'arrives à avoir des entretiens avec eux, enfin des rendez-vous avec eux. » Nous, on n'y arrive pas. On est dans un écosystème qui on finit par se connaître, on se retrouve, les réseaux, il y a une solidarité. Et effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de startups du numérique ici. Donc, il doit se passer un truc.
Pour revenir au contexte électoral, un lieu comme celui-ci qui incarne l'ouverture vers le monde, vers la société, vers les nouvelles technologies, par définition, les extrêmes... C'est pas vraiment, vraiment la tasse de thé, si je puis me permettre, de l'endroit.
Moi, je crois qu'autour de moi, j'ai aucune personne qui a voté dans les extrêmes. Ici, on n'a pas trop de discussions politiques, parce que ça peut fâcher. Donc, on n'a pas trop envie de rentrer forcément là-dedans. Mais si on les a pas, c'est peut-être aussi qu'on est à peu près d'accord. On voyage beaucoup les uns les autres, soit pour le travail, soit pour le plaisir. On est beaucoup à parler plusieurs langues, à échanger. Nous, dans le cadre de notre start-up, là, on veut aller aux États-Unis au mois de septembre, vendre aux États-Unis. On va faire une campagne de crowdfunding, de financement participatif au niveau international, dont aux États-Unis. On a des investisseurs qui vivent au Japon, on a un investisseur américain. Voilà, c'est impossible pour nous d'être repliés sur nous-mêmes, et on trouve que c'est aussi la diversité qui fait la force. Nous, dans nos clients, aujourd'hui, on a plein de gens très très différents. On peut essayer de voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, et puis surtout essayer de prendre ce qui existe déjà pour le transformer en quelque chose d'encore plus positif, même si parfois c'est pas facile.
Bonjour.
Un aller-retour, s'il vous plaît.
Bitter au vin, s'il vous plaît. Merci beaucoup.
Voilà, c'est difficile de passer à Grenoble sans faire un tour par son célèbre téléphérique. C'est c'est Jean-Luc Mélenchon qui est arrivé en tête au soir du premier tour ici à Grenoble avec quelques dizaines de voix de plus qu'Emmanuel Macron. Marine Le Pen a fini en quatrième position ici à Grenoble et au soir du second tour, la candidate du Front National a récolté 17% des voix, c'est-à-dire à peu près 20 points de moins que son score national. Et c'est à peu près cette proportion d'ailleurs que l'on retrouve dans toute la vallée autour de Grenoble qui vit des industries de pointe avec un score notamment qui a atteint 15% à Corinque, c'est l'une des villes les plus riches de France. Nous avons quitté Grenoble, mais nous ne sommes pas allés très très loin puisqu'on est à moins de 6 km de Grenoble. Nous sommes précisément dans le sud de la ville, à Échirolles, qui continue d'être desservie par les transports en commun. Et pourtant, le tableau, le contexte économique et social est vraiment très très différent de celui de Grenoble, avec une sensation, un sentiment de si loin, si proche entre les deux villes. Nous sommes avec Maillard, âgée de 20 ans seulement et pourtant très très investie dans le milieu associatif ici à Échirolles et notamment dans ces associations qui sont nées après malheureusement le lynchage de ces deux jeunes, c'était en 2012. Et ce sont des associations qui évidemment abordent les jeunes pour parler du fléau quasiment numéro un ici à Échirolles, c'est-à-dire tous ces actes de violence. Qu'est-ce que vous leur dites à ces jeunes ?
On ne remet pas en cause donc leur sentiment d'exclusion, mais on veut essayer de passer outre. On ne peut pas s'apitoyer sur son sort, mais c'est une réalité. Il y a des jeunes qui sont exclus du système scolaire. On essaie de leur dire que ce n'est pas la fin, c'est pas forcément parce qu'on n'a pas réussi à l'école qu'on est voué à l'échec et qu'on est voué à la violence et donc tous les problèmes de quartier. Mais oui, c'est une réalité. C'est pas tout le monde a la chance d'avoir un cadre déjà familial et un cadre scolaire. Moi, par exemple, je suis étudiante, donc je ne peux pas vraiment dire que je subis les problèmes de quartier. Moi, si j'ai eu la chance de continuer dans le système scolaire, j'essaie d'aider ceux qui n'ont pas eu cette chance-là. Et donc de ne pas attendre que l'aide vienne d'en haut, entre guillemets, et qu'on s'aide, nous, d'en bas, quoi.
C'est jamais venu d'en haut, à votre connaissance ?
Non, personnellement, moi, si j'ai réussi à l'école, c'est que j'avais la motivation et que j'avais ma famille derrière. Et ce n'est pas l'école qui m'a donné ma chance, c'est moi qui l'ai saisie. En fait, c'est ce qu'on essaie de dire aux jeunes, on essaie de leur dire que c'est important de voter, mais au final, même nous, on se rend compte que même si on vote pour ces gens, après le vote, ils nous oublient. Donc au final, on se dit qu'on a d'autres moyens au niveau local de s'aider et c'est plus forcément au niveau national et au niveau du vote.
Est-ce que vous avez encore confiance en l'État ?
Personnellement, je ne vois plus mon avenir en France et je pense que c'est le cas de beaucoup de jeunes qui se disent que malgré que même si je fais des études, je ne vais pas forcément trouver le fruit de mon travail, donc je vais aller le chercher ailleurs. C'est même plus un problème de quartier ou de musulmans ou d'arabes. C'est que surtout les jeunes, on ne se reconnaît plus dans ce pays. Ils ne nous donnent plus les opportunités qu'on aurait pu avoir peut-être avant. C'est ce qui me chagrine un peu. Mais personnellement, j'ai plus confiance en fait en l'État et je ne pense pas qu'il pourra me donner l'avenir que je veux et que je mérite. Devant mon travail.
C'est terrible de vous entendre dire ça, Maillard, mais à moins de 6 km d'ici, à Grenoble, j'ai entendu le discours absolument inversé.
Ah bon.
On est dans une ville dynamique, conquérante, innovante.
On n'a pas tous les mêmes chances. Malgré que l'école, elle est censée donc nous donner l'égalité des chances, c'est pas vrai. Et même si on travaille, même si on se donne les moyens, on n'aura jamais les mêmes opportunités qu'apparemment mes amis de Grenoble, donc on va aller les chercher ailleurs. Il n'y a pas d'autre solution.
Est-ce que vous voyez Grenoble comme une ville innovante, dynamique, créative d'emploi ?
Personnellement, pas pour moi. Je sais que l'année dernière, j'ai dû faire un stage. J'ai dû aller le chercher en Angleterre, mon stage. Parce que je savais qu'ici, je pourrais pas trouver de stage. Voilà, j'essaye même pas en fait.
Zaïm Bouafs, je suis président du CRI, Club de réflexion sur l'intégration. Ça fait des années que je milite dans cette ville. On parle souvent de radicalisation et on ne s'occupe pas des jeunes qui réussissent. Moi, pas mal de jeunes qui ont réussi leur scolarité et qui viennent me voir pour leur trouver un stage dans une entreprise. ils sont rejetés uniquement à cause de leur nom ou bien du quartier où ils les habitent.
Nous sommes ici à Échirolles, dans une ville à l'histoire communiste assez lourde, assez ancienne, puisque la ville n'a jamais échappé au PC depuis 1946.
1946, exactement.
C'est donc assez logiquement, j'ai envie de dire, que Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête du premier tour de la présidentielle. C'est évidemment tout sauf une surprise ici à Échirolles.
On a été tous derrière Hollande à la dernière élection présidentielle. Et on a été déçus, on a voté pour un président de gauche et on s'est retrouvé avec un président de droite. Donc on a tous essayé la droite, la gauche, ça n'a rien donné pour les gens, les petits gens des quartiers populaires.
Pour être parfaitement honnête avec les auditeurs, il faut préciser à ce moment de l'interview que votre fils va se présenter, se présente pour ces législatives sous l'étiquette des Insoumis ici sur la circonscription d'Échirolles.
On avait mis tous nos espoirs dans cette élection, mais on a perdu une bataille, mais pas la guerre.
Qu'est-ce qui manque à Échirolles, selon vous, pour en faire une ville apaisée?
S'attaquer d'abord au chômage, à la violence. Vous disiez tout à l'heure, c'est une ville qui commence à devenir assez violente. Et la violence, c'est la conséquence du chômage. Moi, j'ai l'habitude de dire, je vais parler crûment maintenant, dans les quartiers populaires, il n'y a pas que les gens d'origine étrangère. Tous les pauvres sont tous des bougnoules pour ces gouvernements, pour les gens qui nous gouvernent. Qu'il soit blond, aux yeux bleus ou d'origine arabe, quand il est pauvre, c'est un bougnoule. Voilà. C'est celle-là, la vraie fracture. C'est entre les possédants et les pauvres. C'est-à-dire ces gens qui nous gouvernent, il leur faut toujours un bouc émissaire pour l'utiliser avec l'épouvantail du Front National pour que les mêmes restent au pouvoir.
Je m'appelle Olivier Hill et je suis enseignant-chercheur à Sciences Po Grenoble.
Dans ce département de l'Isère, en quelques mots, qui porte les couleurs de La République En Marche? Des professionnels de la politique, pas seulement?
Pas seulement. Alors vous avez des figures politiques, pour certaines, assez connues, comme Olivier Véran dans la première circonscription, donc une partie du Grenoble, mais aussi ce qu'on appelle le début de la vallée du Grésivaudan avec Mélan, La Tronche, plutôt une circonscription traditionnellement acquise à la droite, hein, sociologiquement plutôt de ce bord politique. Vous avez aussi une figure du même type, comme Fabrice Hugelet, dans la quatrième. Alors lui, c'est encore plus marqué, puisqu'il était le suppléant de celui qu'il va combattre aujourd'hui, qui est Madame Baptistel, PS, dans la quatrième, donc une partie de Grenoble, de l'Aglo et du plateau de la Mure.
Donc la titulaire, son suppléant, tous les deux,
voilà.
L'une socialiste, l'autre ex-socialiste aujourd'hui, République En Marche, s'affrontent.
Et
Monsieur Hugelet, de la visibilité de la situation.
Tout à fait, ça va être assez compliqué pour les électeurs de s'y retrouver. Et après, on leur reproche de parfois être confus. Mais il faut reconnaître que les partis le sont souvent, hein, et ça n'aide pas. À ce personnel politique s'oppose un autre personnel politique pour La République En Marche. On pourrait appeler cela les nouveaux venus en politique. Alors, ce sont plutôt des trentenaires, 30-40 ans, jeunes, qui ont leur première expérience politique ici, issus, on appelle ça parfois pompeusement de la société civile, en général plutôt du monde de l'entreprise, du monde de l'administration communale, et en l'occurrence, ce sont soit des DRH, soit des chefs d'entreprise, soit des responsables de questions touristiques. Là, on sent bien qu'il y a quelque chose qui relève d'une forme de bascule politique. Hein. On sent bien qu'il y a là quelque chose qui dépasse les personnes et qui relève d'une façon, au fond, de transformer la manière même de faire de la politique, ou en tout cas un certain visage de la politique.
Dans ce climat de bascule politique, comme vous venez de le dire, il n'y a pas ou très peu de certitudes, peut-être une seule à l'échelle du département, c'est que le Parti Socialiste ne conservera pas les 7 des 10 circonscriptions du département.
Ça, c'est certain. Dans l'ancienne configuration, donc 2 de ces circonscriptions étaient détenues par les Républicains et une par Écologie Europe Les Verts. 5 d'entre ces 10 circonscriptions sont des circonscriptions sans sortant. Donc tout est ouvert. On n'a pas à affronter quelqu'un qui est déjà en place. C'est vous dire si les choses sont très incertaines. On ne sait pas vraiment comment les choses vont se passer. Sinon, et vous avez raison de le souligner, c'est que le Parti Socialiste ne retrouvera pas un tel étiage de victoire. Il peut espérer, 2, peut-être 3, circonscription, et encore, ce serait une victoire, ce serait inespéré. On va sans doute voir la fin d'un livre, plus qu'une page qui se tourne, la fin d'un livre, hein. C'est-à-dire celle de la domination d'un parti sur ce territoire, sur ce sud-Isère, disons les deux tiers de l'Isère. Ça, c'est sans doute effectivement ce à quoi on peut s'attendre là, le 11 et 18 juin prochain.
Alors, nous prenons la route pour Tulin, 7600 habitants. Tulin, c'est à 28 km 300, très précisément, nous dit le GPS, de Grenoble. Nous serons dans la vallée de la Basse-Isère. C'est une production agricole qui fait vivre une bonne partie de la région là-bas, en l'occurrence, la production de noix. Tulin, c'est une ville qui a été aussi très marquée par l'histoire du Parti Socialiste, puisque c'est une ville qui a été dirigée pendant près de 15 ans par André Vallini. Et là-bas, lors du premier tour de la récente présidentielle, c'est le FN qui est arrivé en tête, comme à peu près dans toutes les petites villes et villages de cette région agricole.
Après 100 mètres, au rond-point, tournez à gauche, deuxième sortie. Après 200 mètres, vous êtes arrivé.
Je suis donc Pierre Galin-Martel, je suis producteur de noix à Tulin dans l'Isère, au cœur de la zone de production noix de Grenoble, qui bénéficie d'une appellation d'origine protégée depuis 1938. Une production qui en agriculture, heureusement pour nous, marche plutôt bien, puisqu'il y a un très gros déficit de production mondiale par rapport à la consommation. Et par rapport à nos collègues éleveurs, céréaliers, il faut dire que nous avons plutôt de la chance. Il faut que les choses durent.
Alors on va tout dire aux auditeurs. On a connu des interviews dans un cadre moins sympathique que le nôtre en ce moment. Vous pouvez nous décrire un petit peu où nous sommes, c'est-à-dire en plein milieu de votre exploitation. Décrivez-nous ce paysage juste devant nous.
Bien voilà, nous sommes donc sous un verger de noyers. Mon exploitation, bon, j'ai 38 hectares de noix. Donc effectivement, nous sommes à une période où les vergers sont très bien feuillés, où le sol est enherbé, puisque je suis en production biologique. C'est vrai que c'est plutôt une période où c'est plutôt agréable d'être sous les vergers de noyers.
La récolte, elle, est plus tard dans la saison, plutôt vers octobre, c'est l'automne ?
Oui, la récolte est au mois d'octobre. Il y a environ 4 semaines de récolte mécanique, donc au mois d'octobre.
Alors, on va pas se faire attraper par ce décor bucolique pour oublier la raison qui nous conduit jusqu'à vous ici à Tulin. Tulin où le FN est arrivé en première position lors du premier tour de la présidentielle. Est-ce que ça vous a surpris ?
J'ai été surpris, mais c'est quelque chose qui fait que se confirmer et s'amplifier. Enfin, j'estime qu'il y a des signaux depuis déjà plus d'une dizaine d'années. Il y a quelque chose qui m'exaspère, c'est les propos qui sont tenus par les partis politiques traditionnels juste avant ces élections, en faisant peur, en diabolisant le Front National, alors que ce sont ces partis-là qui ont créé, qui ont généré ce vote Front National par la déception qu'ils ont apportée aux Français.
Si je résume, les deux derniers mandats, droite et gauche, manquaient tous les deux, donc du coup le repli est de tenter autre chose, c'est ça si je veux résumer la pensée ?
Tout à fait, peut-être même au-delà, mais en particulier les deux derniers mandats ont terriblement déçu les gens de droite il y a 10 ans et les gens de gauche ces 5 dernières années. Je le revendique, j'ai toujours été quelqu'un de gauche, et j'ai été écœuré par ces 5 dernières années, tout le contraire de ce qui avait été promis a été fait, comme en particulier, par exemple, les impôts, l'imposition, où on a vu des retraités qui n'avaient jamais vu, ou des salaires très faibles qui n'avaient jamais payé d'impôts, qui ont payé des impôts, et les classes moyennes, dont j'estime faire partie, qui véritablement ont été matraquées.
Choses sérieuses ne commencent. Vous allez voter aux législatives ?
Je sais pas. Je pense pas. Plus intéressant pour moi. Non, non. Non, on n'a jamais ce qu'on veut, donc ça donne plus envie. Voilà. De toute façon, on n'y arrivera pas, je pense.
Vous êtes bien pessimiste.
Bah oui. Maintenant, oui.
Ça vous a surpris de voir que le FN était en tête, ici ?
Pourquoi surpris ? Non, non, ça m'a pas surpris. Je pense que c'est normal un petit peu aussi, non ? Avec ce qui se passe de partout en France, les gens, ils en ont marre. On a envie que ça bouge, que ça change. Et puis on a envie de surtout de faire sortir les immigrés qui nous causent des problèmes, qui font des problèmes de partout, qui brûlent leur camp. C'est à nous de payer tout ça. Voilà, quoi, on bosse, nous, hein, on bosse tout ça. Moi, je suis là parce que je suis en congé, mais je me lève à 5h30 le matin, hein, tous les jours, hein. Je vais sur les chantiers après autour de Grenoble, c'est dur, c'est pareil, ça roule mal. Ça aussi, c'est un problème, je sais pas, un peu comme la politique, ils arriveront jamais à régler.
Vous avez un travail, mais est-ce que vous diriez que vous vivez bien ?
Moi, j'arrive à m'en sortir, ça va. Ouais.
Et vous, le problème pour vous, ce sont les immigrés ?
Pas que les immigrés, les terroristes, les immigrés, les terroristes, ouais, un petit peu tous ceux qui foutent le bordel en France. Ils en ont rapatrié ici, pas loin de chez nous. Donc on sait qu'il y en a. Mais bon, c'est pas parce qu'ici on est tranquille. Nous, on regarde, je pense, ce qui se passe autour, un peu plus loin autour aussi, en même temps. Hein.
Voilà, c'est parti pour la partie de pétanque à l'ombre des platanes.
Ah ! Ah !
Bah, c'est toi qui l'en fais 4, ça. Non, mais
nous,
en fait, t'as pas le droit de
t'asseoir. Bonjour.
Je vais vous prendre un café, s'il vous plaît.
Un café ?
Merci.
Est-ce que ces législatives vous intéressent ou vous dites ça va, là, on a déjà eu une bonne dose de politique ?
Oui, il y en a une bonne dose de politique, mais elle m'intéresse beaucoup. Surtout que j'ai un nom à Tulin. Je porte le nom de la place d'ici. Et il y a des gens qui vont venir faire une campagne ici que je ne vais pas supporter.
Des gens qui ont bien réussi au premier tour de la présidentielle ?
À Tulin, un endroit de voix qui m'ont beaucoup incommodé, parce que à Tulin, c'est le pays du docteur Valois. Gaston Valois, je m'appelle comme ça, je suis son petit-fils. Et ce que les gens oublient à Tulin, c'est que le docteur Valois, il a été arrêté et torturé par des Français, des milices d'extrême droite. Moi, donc, tout ce qui ressemble à l'extrême droite, ça me hérisse le poil. Donc, quand ils vont venir faire leur campagne ici, je vais leur expliquer, il faut qu'ils aillent ailleurs, gentiment d'ailleurs. Mais c'est tout. Donc c'est ça, moi, la seule chose qui me pose problème, c'est ça.
Au regard de votre histoire familiale et personnelle, au soir du premier tour de cette présidentielle, quand vous voyez Marine Le Pen première chez vous, ici, à Tulin...
C'est ce que je dis, qu'à Tulin, 1300 personnes aient pu voter extrême droite, je ne comprends pas. C'est ce que j'explique aux gens. Moi, je ne suis pas sectaire ni énervé. Qu'on veuille protester, je suis complètement d'accord. Hein. Qu'on ne soit pas d'accord, moi, je suis d'accord avec peu de choses, pour tout vous dire. Hein. Mais il y avait plein de bulletins de vote à prendre. Il y en a qu'un qu'il ne fallait pas prendre. Pour moi, c'était celui-là. Et je ne comprends pas. Donc ces gens ne savent pas qu'en votant extrême droite, peut-être, c'est sûrement pas des... Il n'y a pas 80% de fachos au Front National, ça, j'en suis convaincu. Mais quand ils prennent ce bulletin, si vous voulez, ils valident des idées qui sont de notre temps. Et en ce moment, ça renifle les années 1930 comme c'est pas possible.
Donc beaucoup de craintes pour ces législatives, pour
absolument.
Vous ?
Absolument.
Y compris sur ce fief de gauche.
Ah ben en plus, à Tulin, si vous voulez, ils nous collent le grand patron du Front National. Hein. Ils y vont pas avec le dos de la cuillère. Hein. Il y a deux choses où vraiment je suis. C'est les sectes et l'extrême droite. ça. Alors, c'est pas possible. Pour moi, c'est des choses qui ne sont pas possibles.
Même devant vous, les gens disent de manière décomplexée « j'ai voté Front National ». Non, pas devant vous.
Non, non, mais je cherche pas à savoir qui, hein, c'est pas mon problème, hein, j'ai pas à en vouloir aux gens de Tulin. Moi, je vis à Tulin depuis mon enfance, je me suis baladé, mais je suis revenu installer mon imprimerie à Tulin quand je me suis mis à mon compte, et je vis à Tulin, je veux pas aller vivre ailleurs. Donc moi, je me trouve très très bien à Tulin. Mais j'ai peur pour les Tulinois, tout bêtement, puis pour les gens qui se rendent pas compte de ce qu'est un vote extrême droite. Surtout que c'est pas qu'en France, hein. Regardez toute l'Europe, hein. La Pologne, la Hongrie, c'est affreux, hein.
Non, on va à la mairie de Tulin. Beaucoup de cyclistes ici, c'est normal, déjà c'est très joli, c'est assez plat ici dans le département, c'est à signaler, et puis c'est surtout très paisible, idéal pour les balades à vélo.
Bonjour, je me présente, voilà, je suis Jean-Pierre Renevier, je suis retraité agricole, j'occupe un mandat actuellement d'adjoint à la mairie de Tulin. De plus en plus de gens viennent habiter dans ces communes-là. Pour eux, le rêve, c'est d'habiter à la campagne, d'avoir sa maison, sa petite villa, et puis de pouvoir travailler à l'extérieur, puisque maintenant...
Donc, les gens travaillent où alors ?
Un des flux les plus importants, dans les études qui sont faites, notamment dans le cadre de la révision du PLU qu'on fait à Tulin, montre que 80% qui travaillent en dehors de Tulin, dont 60% qui vont du côté de Grenoble, et le reste, ça va plutôt du côté de Voiron, des autres agglomérations. Donc ces gens-là habitent à Tulin et le matin, ils se rendent sur leur lieu de travail. Donc ce sont principalement des jeunes couples, donc des enfants qui ont besoin un peu effectivement d'espace, donc un bout de jardin, quoi. Voilà, donc,
vous les voyez, parce que vous occupez de l'urbanisme, donc vous voyez oui. Ces pavillons se construire.
Ouais. Moi je vois l'évolution de la commune qui s'est bien urbanisée en termes de petites villas. Donc ces gens-là, ils construisent leur petite villa, quoi. Et puis ils vont travailler à la ville. Alors, ce qui se produit, c'est qu'on voit, je vois souvent, moi, dans mes dossiers d'urbanisme, des gens qui construisent, et puis au bout de 3, 4, 5 ans, la villa est à vendre. Parce que le rêve du parcours résidentiel tourne à l'enfer par moment. Parce que le matin, il faut se lever de bonne heure pour aller à Grenoble, il faut emmener les enfants à l'école, il y a des courses, il faut rentrer, enfin c'est... C'est un cycle infernal, quoi. Et pour moi, je caricature, mais les villas, pour moi, c'est une forme de prison verte, quoi. On s'enferme dans sa prison verte et on ignore un peu tout ce qui se passe autour et on prend conscience de ce qui se passe autour quand ça dérange. Voilà, c'est un peu la problématique de toutes ces communes périurbaines. Je me conforte dans cette idée-là que les gens, bon, une fois qu'ils sont dans leur villa, ils oublient qu'on est dans un système social, je veux dire, dans une société, ils oublient les autres. Et c'est ce qui, moi bon, j'interprète comme ça, ce qui contribue aussi à l'émergence de ce vote contestataire et qui s'exprime par la montée en puissance dans les communes périurbaines du Front National.
Donc selon vous, en tant qu'élu, c'est l'émergence de cette nouvelle population dans la ville qui fait que le vote a changé ces dernières années ?
Il n'y a pas de vérité universelle, quoi. Je veux dire, c'est une combinaison de facteurs... Moi, je l'interprète comme ça, peut-être que je me trompe, mais c'est mon appréciation de la situation. Voilà. Et c'est vrai que moi, je suis inquiet sur le devenir, en termes politiques, de la situation en France. J'espère que le nouveau président qui a été élu par les Français arrivera à mettre en place son programme, parce que je pense que sinon, dans les échéances futures, le Front National, surtout qu'il a l'intention de changer de costume, d'assouplir un peu son discours, je pense qu'effectivement, ce parti politique-là, un jour ou l'autre, sera aux commandes du pays. Et j'espère que ça n'arrivera jamais. C'est mon choix personnel.
«
moins de montagnes et plus d'entreprises et d'industries autour de nous. Nous sommes désormais dans le nord de l'Isère, à Bourgoin-Jallieu, terre de rugby bien évidemment, mais c'est aussi dans le nord du département que l'on trouve l'un des plus grands pôles industriels du pays. Alors si on regarde exclusivement du côté des chiffres, on a le sentiment que ça va plutôt bien ici. Il y a beaucoup de création d'emplois et d'autres sont encore programmés dans les années à venir. Mais on va se rendre compte assez vite que la réalité est beaucoup plus nuancée que ça.
Oui, entrez.
Bonjour.
Bonjour.
Alors je suis Bachir Sassi. Je fais des permanences juridiques pour l'organisation syndicale CGT depuis maintenant plusieurs décennies sur Bourgoin-Jallieu à l'union locale CGT. Quand on dit qu'il y a du travail sur le territoire du Nord-Isère, oui, il y a du travail. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce travail, je pense qu'il y a une énorme précarisation du travail parce qu'on a des petits boulots, on a beaucoup, de temps partiel, on a ce type de contrat, des CDD, on a beaucoup d'intérim. Alors oui, il y a du travail, ça c'est clair. Mais la problématique, c'est que ce travail ne permet pas aujourd'hui aux femmes et aux hommes résidant sur le territoire de Nord-Isère d'être complètement, autonomes dans leur vie de tous les jours par rapport justement à cette précarisation du travail. Dans mes permanences, moi je vois fréquemment des femmes et des hommes qui viennent, qui sont effondrés, qui sont épuisés, qui n'en peuvent plus de cette pression qu'ils ont dans le monde du travail, pression hiérarchique, pression de la peur du lendemain. C'est des gens qui arrivent au bout du rouleau, alors que le travail devrait être pour moi source presque, je dirais, de bonheur quand on aime son travail.
Ce serait illusoire de tenter de faire l'intégralité de la cartographie électorale du secteur tout autour de nous. Mais si on se concentre sur les villes nouvelles autour de Bourgoin-Jallieu, l'île d'Abo par exemple, Villefontaine, les deux vainqueurs du premier tour dans ces villes-là par exemple sont Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Ça veut dire quelque chose sur le degré de colère dans le secteur.
Mais ça c'est parfaitement compréhensible pour la bonne et simple raison que déjà dans ces villes nouvelles, beaucoup de personnes arrivent de la banlieue, notamment lyonnaise, puisqu'à un moment donné, Lyon a expulsé, entre guillemets, si je peux me permettre de parler ainsi, toutes ces femmes et ces hommes qui étaient ouvriers, ouvrières, qui travaillaient dans les commerces, tout ça, puisque le logement était devenu tellement cher qu'ils se sont expatriés en périphérie.
Je me dois préciser très rapidement pour les auditeurs qui ne sont pas du coin que Lyon est plus proche de nous que ne l'est Grenoble.
Voilà. Donc, après, le deuxième point, c'est que il y a un taux de chômage qui est énorme dans ces villes nouvelles. On est dans une population dont l'instruction, pardonnez-moi si je puis me permettre de parler ainsi, n'est pas allée sur des bacs plus 5, des bacs plus 6, etc., etc. On est dans ce milieu-là, milieu d'ouvrières et d'ouvriers. Donc, ça explique aussi qu'à un moment donné, on avait deux choix. Les deux choix de l'extrême. Donc, c'est quelque chose qui parle aux gens dans ces cités où c'est des gens qui sont laissés pour compte et qui ont aussi dans leur milieu, on a moins de services sociaux, moins d'associations qui peuvent les prendre en compte, on a aussi moins de commerce. Si vous regardez aujourd'hui, je prends l'île d'Abo, sur l'île d'Abo il y a 15, peut-être entre 15 et 20 000 personnes quand même, il y a une poste.
De toute façon, ici, moi, ça fait 30 ans que j'habite ici. De toute façon, à l'époque, il y avait 800 habitants quand je suis arrivé ici.
Aujourd'hui, on est plus proche des 17 000 habitants. Donc, C'est une ville dont la population augmente extrêmement vite. C'est peut-être ça aussi le problème.
Mais la plupart des gens qui viennent d'ici, en fait, tous les arrivants, c'est toute la banlieue lyonnaise, en fait. Ils viennent tous de là, en fait, la plupart. Tous ceux qu'on a connus après en grandissant ici, là, tout contre faux, ça vient tous de Vanvelin, les Minguettes. En fait, ils désengorgent leur quartier et en fait, ils déplacent la merde, en fait. Pour moi, ils déplacent la merde. La merde était sur Lyon, maintenant elle est ici. C'est la même chose, quoi. Mais, de toute façon, ici, ça a toujours voté Front National. Donc, ça me choque pas, personnellement. Donc, voilà, quoi.
Selon vous, ce vote Front National ici, c'est un problème avec l'étranger ? C'est un problème avec les étrangers, ou c'est un problème économique de gens qui vivent pas bien?
Non, le boulot, il y en a, en sachant qu'il y a Saint-Quentin-Fallavie à côté, voilà.
C'est une énorme plateforme industrielle.
Tout à fait, c'est la deuxième, je crois, de France. Par rapport à, après celle de l'île de France. Donc les gens, s'ils veulent... Bon, après, les boulots, voilà, c'est pas des boulots extraordinaires, mais si la personne veut vraiment travailler, il trouve du boulot. Après, voilà, après c'est la paye qui suit pas, ou c'est autre chose. Mais la personne qui a vraiment envie de travailler, voilà, en Saint-Quentin-Fallavie, ils en trouvent du boulot.
Donc ce vote Front National n'est pas économique.
Le ras-le-bol, parce qu'ici, le soir, c'est le bordel ici. Les gens, ils se plaignent parce que voilà, quoi, ça fait du bruit jusqu'à 2-3 heures du matin. Il y a les gens qui travaillent, donc voilà, ils dorment mal. Les flics, on beau les appeler les gendarmes, c'est ça sert à rien de toute façon, ça va à rien. La police municipale, alors, c'est encore pire. C'est ouais, non franchement. Ouais. Ils disent qu'il faut 20% de cas social dans chaque ville, là, il y en a plus de la moitié. Donc voilà quoi. Comment voulez-vous que la ville elle tourne s'il y a plus de cas sociaux que des gens qui travaillent? Donc les finances de la ville, c'est pas possible quoi. Ça marche pas.
Alors pour le moment, les panneaux électoraux sont plutôt vides parce que là, sur les 11 emplacements des 11 candidats supposés dans cette circonscription, il n'y en a qu'un seul qui est venu afficher son visage et sa candidature. C'est le candidat de la France Insoumise. Nous sommes désormais avec Alexandra, Élise et Alexandre qui ont travaillé quelque temps dans la grande distribution, qu'ils ont quitté depuis quelque temps pour burn-out. C'est la médecine du travail hein, qui vous a tous qualifié inapte au travail eu égard à ce que vous avez traversé dans ce système qui vous a brisé en quelque sorte, Alexandra.
Depuis, je suis au chômage. J'essaye de me remettre pour envisager de changer carrément de branche parce que la grande distribution, je ne veux plus quoi.
Alexandre, peut-être vous pouvez nous raconter ce que vous avez traversé quand on parle comme ça dans les grandes lignes de précarisation du travail, de déshumanisation du travail. C'est pas un concept, vous l'avez vécu.
C'est travailler 6 jours sur 7 pour toucher le SMIC, nous demander des conditions de travail très dures jusqu'à... J'étais en préparation de commandes jusqu'à 200 à 300 produits à l'heure. C'est assez inhumain. Après, ils nous demandent, si le souci, c'est que voilà... La première semaine, deux semaines, on arrive à tenir le coup, mais quotidiennement, sur un an ou deux ans, c'est compliqué, nous ne sommes pas des machines.
Vous avez tenu combien de temps, vous ?
Je suis resté un an et demi dans l'entreprise, qui est un record, parce qu'au bout, au bout d'un an, je faisais partie du personnel, on peut dire, qui avait déjà de l'ancienneté dans l'entreprise au bout d'un an, quoi.
Et vous, Élise, combien de temps vous avez tenu dans ces conditions ?
Moi, un an. J'ai travaillé pendant un an et après, j'ai eu quasiment 8 mois d'arrêt. On ne peut pas effacer des choses comme ça.
On ne licencie pas, on pousse les gens à partir en appuyant sur leurs faiblesses. Donc c'est plutôt aussi tout ce côté-là qui a été compliqué au quotidien et qui a joué sur ma vie personnelle également. Parce que quand vous rentrez du travail après avoir subi ça, vous n'êtes pas forcément de bonne humeur. Donc votre famille en subit aussi les conséquences, vos proches, etc. Donc c'est tout ça qui, mis bout à bout, fait que les personnes craquent.
C'est un boulot que vous avez eu du mal à trouver ou vous l'avez trouvé facilement ?
Non, moi je l'ai trouvé facilement. Donc au début ça allait, donc on se dit bon c'est cool, puis après au fur et à mesure, non c'est le regret. Parce qu'en fait au final quand c'est notre premier vrai boulot, en fait on est curé, on se dit en fait c'est ça la vie d'adulte, c'est ça le boulot, c'est se faire radatiner tous les jours quoi.
Ça allait très vite, hein. Je suis allée une après-midi à la boîte d'intérim, on m'a proposé un rendez-vous sur le champ, donc je me suis rendue à Bourgoin directement. De là tout de suite on m'a fait faire un essai et c'était enclenché quoi, enfin j'y étais quoi. Ça, en une après-midi c'était fait.
Quel est le moment où vous vous êtes dit, là, c'est pas possible, c'est pas du travail, ça s'appelle autrement, ce que je suis en train de subir ?
Je pense que quand vous voyez plusieurs salariés sortir du bureau du responsable en pleurant régulièrement, déjà vous commencez à vous dire, il y a un problème. Donc quand on vous met la pression, qu'on vous surveille constamment et que les reproches sont quotidiens, là aussi, et qu'on sait qu'on fait du mieux qu'on peut, c'est pas justifié, quoi.
Moi, c'est surtout après l'arrêt, parce que je me suis mis en arrêt maladie, parce qu'un matin, j'ai pas réussi à me lever. C'est mon corps m'avait lâché, ma tête aussi. Mais même pendant mon arrêt, j'avais quand même du mal à réaliser tout ce qui se passait. Il a vraiment fallu que j'aie des soins et que les différents médecins qui me suivaient me fassent comprendre qu'il y avait vraiment un problème et que j'avais vraiment craqué au boulot.
Vous pensez que vous avez vécu des choses aussi dures et pénibles parce que c'est la folie d'un manager, en gros, au-dessus de vous, qui vous a rendu cette vie impossible ? Ou c'est le système économique actuel qui fait qu'on en arrive à ces méthodes de management ?
Non, je pense que le système est propice à ce genre de comportement et de plus aggravé quand le genre de personne que j'ai connu en tant que manager est nommé à ce poste, parce que clairement il a carte blanche pour faire ce qu'il veut du moment qu'il ramène de l'argent concrètement quoi. Donc peu importe les conséquences, de toute façon lui-même disait que nous on était des pions comme sur un jeu d'échecs et que échec et maths c'était la réussite. Enfin ça vous explique un peu le mode de fonctionnement, donc à partir du moment où vous voit comme des pions, ou même j'ai entendu dire de la chair à canon, ça vous montre le ton quand même de ce qui se passe. Mais après, je pense que le système aussi joue en la faveur d'actes de ce genre parce que ben justement, il faut avoir du rendement, il faut aller de plus en plus vite, etc. Et dépenser le moins d'argent, donc embaucher le moins possible, ce qui arrange pas les salariés, quoi.
Vous avez espoir en la politique ?
J'écoute, mais j'y crois plus trop. Parce que tout le monde dit des choses, mais personne ne tient parole. Donc au final, c'est vraiment... faites ce qu'on vous dit. Et puis j'ai l'impression qu'en fait, il y a quelqu'un en haut de la pyramide à qui ça profite. Et puis qu'en bas, on s'en fiche un petit peu, quoi.
Le chamboule-tout des législatives, l'exemple isérois, un reportage de Vanessa Descoureaux, mixage Delphine Baudet, réalisation Anne Lioro, assistée de Stéphane Combe et Zora Ben-Smaili. À la semaine prochaine.